France Culture, il est midi et demi. Le journal, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Comme il l'avait annoncé, l'hôpital de Reims a interrompu ce matin les soins dispensés à Vincent Lambert, devenu malgré lui un symbole du débat sur la fin de vie, débat à l'origine familiale et judiciaire, mais qui dès ce matin a repris un tour politique. Félix Dorfin a été condamné ce matin à la peine de mort pour trafic de drogue par un tribunal indonésien. Le parquet avait requis 20 années d'emprisonnement. Quand la présence en France de l'idéologue controversé Steve Bannon, fantôme des extrêmes droites européennes, devient un sujet de campagne à quelques jours seulement du scrutin. En Autriche, l'ensemble de l'extrême droite s'est dite prête ce matin à retirer tous ses ministres du gouvernement après la diffusion d'une vidéo montrant son leader nationaliste prêt à se compromettre avec la Russie. De son côté, Moscou assure qu'il n'a rien à voir avec ce scandale politique. Puis l'invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Dominique Reynier, professeur des universités à Sciences Po et directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Parce qu'entre une mère refusant de laisser mourir son fils d'un côté et une épouse souhaitant laisser partir son mari de l'autre, les divisions familiales ne pouvaient que donner chair au débat de société et de valeurs entre fervents catholiques et partisans de l'euthanasie. L'affaire Vincent Lambert, comme on l'appelle, n'aura cessé de déchirer jusqu'au bout non seulement la famille du blessé grave, mais au-delà la France tout entière. Au camp depuis plus de 10 ans, un terrible accident de la route a plongé Vincent Lambert dans un état végétatif. Le tragique, le dispute à l'éthique. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour.
Alors sur cette inextricable question de la fin de la vie, dont Vincent Lambert est devenu malgré lui le symbole, c'est finalement la justice qui aura tranché. Et c'est ainsi que ce matin, au CHU de Reims, à présent que plus rien ne s'opposait à la décision de l'équipe médicale d'engager l'arrêt des soins, la sédation profonde et continue de Vincent Lambert ont donc commencé.
Effectivement, l'arrêt des soins et la sédation profonde continuent, ont débuté ce matin comme prévu. Il devrait se poursuivre jusqu'à la mort de Vincent Lambert d'ici quelques jours. Il ne sera plus alimenté ni hydraté, mais selon les spécialistes des soins palliatifs, il n'aura pas de sensation de faim ou de soif, tout simplement car il n'a plus de conscience. Le décès surviendra lors de l'arrêt du cœur lié à la défaillance des reins. Néanmoins, pendant les prochains jours, le patient sera accompagné. L'équipe soignante va poursuivre les soins tels que la toilette, le massage, les soins de la bouche ou des yeux. Les proches de Vincent Lambert qui le souhaitent pourront être présents dans sa chambre, y compris pendant la nuit. Dans un communiqué, le docteur Sanchez, qui est le chef du service des soins palliatifs à l'hôpital de Reims, souhaite, je cite, que pendant cette période douloureuse, chacun puisse ouvrir une parenthèse et se rassembler auprès de Vincent Lambert afin que ces moments soient le plus paisibles, intimes et personnels possible. Mais on en est loin pour le moment car les parents de Vincent Lambert n'en démordent pas. Ils veulent prolonger la fin de la vie de leur fils, coûte que coûte. Leurs avocats ont saisi en urgence, en référé tout à l'heure, la Cour d'appel de Paris dans l'espoir de contraindre le gouvernement à redémarrer les soins. Ils ont également saisi une troisième fois la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que le Conseil d'État. La bataille des parents est également celle de l'image, puisque la mère de Vincent Lambert vient de faire diffuser une vidéo montrant ses derniers moments avec son fils.
Merci Antoine Maret. Alors depuis toutes ces années, le cas de Vincent Lambert n'aura cessé d'alimenter un débat très sensible, faisant appel aux convictions à la fois éthiques et religieuses de chacun, celui de l'euthanasie. Un débat relancé d'ailleurs l'an dernier lors des états généraux de la bioéthique, sauf que le gouvernement avait choisi à l'époque de ne pas inclure la question de l'euthanasie dans la prochaine loi de révision de la bioéthique, une manière en somme de ne pas avoir à se prononcer. Steven Goyer, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors récemment, dans une lettre ouverte, les avocats des parents de Vincent Lambert avaient imploré Emmanuel Macron de maintenir les traitements, qualifiant la mort programmée du patient, de leur fils, je cite, de crime d'État. Ou quand le cas médical de Vincent Lambert devient donc aussi une affaire éminemment politique, voire un nouvel objet de débat et même de positionnement idéologique à l'occasion du scrutin de dimanche.
Et c'est surtout à droite de l'échiquier politique que l'on donne de la voix sur le sujet depuis hier. On s'en doute pas, franchement, pour soutenir la décision d'arrêt des soins. Électorat catholique traditionnaliste oblige. Écoutez par exemple ce qu'en dit ce matin sur notre antenne la numéro 6 de la liste Rassemblement National, Joël Mélin.
Je crois qu'il y a un abus absolu. Laissez quelqu'un qui est parfaitement viable viable puisqu'il vit comme cela depuis 10 ans. Le faire mourir de faim et de soif est quelque chose qui est positivement insupportable. Alors j'entends bien qu'il avait, semble-t-il, laissé ses dernières volontés, mais en l'occurrence, ce n'est pas au médecin d'arrêter une vie qui ne nous échappe pas.
Et ce n'est pas forcément non plus à la justice de trancher, d'après Marine Le Pen, interrogée sur France Info ce matin, malgré les décisions du Conseil d'État et de la Cour européenne des droits de l'homme.
Vincent Lambert, là, ne survit pas grâce à des machines. Il est uniquement nourri et hydraté. Et l'idée qu'un magistrat contre la vie de la famille puisse cesser cette hydratation et cette alimentation, évidemment, interroge.
Invité de France Inter, la tête de liste, Les Républicains, François-Xavier Bellamy, a lui aussi jugé que le dossier Vincent Lambert ne devait pas être refermé.
Nous avons parfois la tentation de considérer que la vie absolument dépendante, c'est une vie qui n'est plus digne d'être vécue.
Donc vous dites attention, il n'y a pas de vie inutile, c'est ça ?
Il n'y a pas de vie indigne d'être vécue, et même une vie qui peut sembler inutile, je crois, est une vie profondément humaine.
François-Xavier Bellamy, qui appelle désormais le président de la République Emmanuel Macron à s'exprimer sur le sujet, un soutien donc affiché à la démarche lancée par la mère de Vincent Lambert.
Merci Steven Goyer. Après une première semaine consacrée au seul le délit de fraude fiscale, le procès à Paris des époux Balkany reprend aujourd'hui durant 5 semaines. Le maire Les Républicains de Levallois, Perret, et sa femme, première adjointe, devront cette fois-ci répondre d'accusations de blanchiment et de corruption. Depuis ce matin, plusieurs opérations escargots sont en cours en région parisienne et dans la capitale à l'appel de syndicats de taxis, d'auto-écoles, mais aussi d'une association d'ambulanciers. Ils protestent tout à la fois contre la loi mobilité, la réforme à venir du permis de conduire et une réforme du financement des transports de santé. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors on le voit, les motifs de mécontentement ne sont pas tous les mêmes, même si en l'occurrence ils ont un point commun, la dénonciation d'une forme d'ubérisation de la société.
Oui, commencer par l'enseignement du code de la route qui pourrait se faire dès le lycée, comme le préconise la réforme. Autre mesure qui inquiète les professionnels, l'émergence des plateformes internet qui proposent des heures de conduite moins chères grâce à des professeurs qui ont le statut d'auto-entrepreneur et aussi des simulateurs pour se préparer à l'examen du code de la route. Il regrette, ces professionnels, que ses élèves, qui passent ensuite l'épreuve de conduite en candidat libre, privilégient l'aspect financier au détriment de la qualité de l'apprentissage, ce qui aurait selon eux des conséquences sur leurs résultats qui seraient moins bons. Patrice Besson préside le CNPA Éducation Routière.
Le problème, c'est que si, en fin de compte, on ne garde un local d'enseignement pour mettre des simulateurs, parce que les simulateurs, il faut un endroit pour le mettre, pour faire des cours collectifs afin de baisser le coût du permis uniquement pour les citadins, et que si la France périphérique n'a plus de locaux, mais à la place une voiture pour un formateur avec des prix élevés, c'est pas la baisse de 30% qu'il y aura dans la France périphérique, ça va être une augmentation de 30% du coût du permis.
Avec cette réforme, vous l'avez entendu, Édouard Philippe promet de réduire le coût du permis de conduire de 30%. Faut répondre les syndicats qui préconisent plutôt d'utiliser l'argent récolté par les radars pour financer l'aide au permis de conduire.
Merci Hakim Kasmi. À quelques jours seulement des élections européennes, tous les partis politiques ont décidé de jeter leur dernière force dans la bataille et dans ce scrutin qui s'annonce aussi disputé qu'indécis. C'est peu de dire que le ton monte. Tout le week-end aura notamment été marqué par un tir de barrage concerté de la majorité contre le Rassemblement national, accusé d'être le cheval de Troie des plans aussi bien de Trump que de Poutine pour affaiblir l'Europe. La Macronie en veut d'ailleurs pour preuve la présence à Paris de Steve Bannon, le sulfureux ex-stratège du président américain qui aura enchaîné les interviews avec les médias français pour encenser Marine Le Pen. Louise Baudet, bonjour.
Bonjour.
Alors la présence en France de l'idéologue américain controversé, lequel séjourne dans un palace parisien, est devenue à présent donc un véritable sujet de campagne. La République En Marche dénonçant, je le disais, l'influence qui lui est prêtée sur le parti d'extrême droite de Marine Le Pen. De son côté, celle-ci a assuré dès ce matin que l'américain n'avait aucun rôle dans la campagne du Rassemblement National. Quoi qu'il en soit, Louise, qui est Steve Bannon et surtout que veut-il ?
Steve Bannon, 65 ans, fils d'ouvrier devenu homme d'affaires, banquier passé par Goldman Sachs. fondateur de la chaîne ultra-conservatrice Breitbart News et surtout éminence noire de Donald Trump, stratège de sa campagne, puis conseiller à la Maison-Blanche avant d'être évincé à l'été 2017. Depuis, Steve Bannon a jeté son dévolu sur l'Europe, où il rêve d'exporter la révolution conservatrice trumpienne. Il prédit un tremblement de terre dimanche prochain, prélude selon lui à l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir en France et à la réélection du président américain. Steve Bannon a multiplié les contacts ces derniers mois avec les leaders nationaux populistes européens, au premier rang desquels l'Italien Matteo Salvini, le Néerlandais Geert Wilders et Marine Le Pen. Mais plus qu'un coup politique, il recherche une influence à long terme via des think tanks, des instituts de formation, comme cette université qu'il entend ouvrir dans un monastère du Latium en Italie pour y former les futures élites du national-populisme.
Alors après une interview au Parisien, c'était ce week-end, puis à nouveau sur BFM TV ce matin, Steve Bannon est étonnamment omniprésent sur la scène médiatique. Pour autant, Louise, quelle est sa véritable influence sur la scène politique européenne ?
C'est toute la question. Steve Bannon se présente comme un conseiller informel de Marine Le Pen, ce que l'intéressé dément vigoureusement. Il était présent à son congrès de refondation en mars 2018 et rencontre régulièrement des cadres du RN comme Louis Alliot ou Jérôme Rivière. En revanche, les liens financiers avec le RN souvent évoqués ne sont pour l'heure pas prouvés. Et puis Steve Bannon, qui cherche à fédérer les nationalistes européens, ne saisit pas nécessairement toutes les nuances de brun qui existent sur le vieux continent, atlantiste ou pro-russe, libéraux ou protectionniste, une complexité très éloignée du bipartisme américain. Difficile donc avec tout cela de faire la part des choses entre l'activisme très médiatisé de Steve Bannon et sa réelle influence sur la scène politique européenne.
Merci, Louise Baudet. Alors depuis des mois, La République En Marche et le Rassemblement National sont donc au coude à coude dans les sondages, avec désormais un léger avantage pour la formation d'extrême droite. L'alerte rouge est donc décrétée dans le camp présidentiel et c'est ainsi que toute la journée d'hier, ministres et responsables de LREM ont donc multiplié les critiques contre le Rassemblement National, en particulier, on vient de le voir, avec le soutien affiché par l'américain Steve Bannon, mais pas seulement, puisque le parti présidentiel a également versé deux autres pièces à son dossier d'instruction. Les images de Marine Le Pen aux côtés du ministre italien Matteo Salvini lors d'un grand meeting, c'était à Milan samedi, sans oublier le scandale russe éclaboussant l'allié autrichien du Rassemblement National. Samedi, l'extrême droite autrichienne a en effet assisté dans la sidération à la disgrâce de son chef depuis 14 ans, Heinz Christian Strache, acculé à la démission de tous ses mandats après la diffusion d'une vidéo le montrant en train de promettre des marchés publics à une prétendue intermédiaire russe. Alors, outre que la fin brutale de la coalition entre conservateurs et extrême droite va obliger les Autrichiens à retourner aux urnes après l'été, elle pourrait également bousculer la fin de campagne pour les européennes en réveillant le démon des compromissions économiques et du manque de transparence. Quoi qu'il en soit, ce matin, la Russie a elle aussitôt réagi par la voix du porte-parole du Kremlin, comme on pouvait s'y attendre. La Russie assure que le scandale politique en Autriche n'a rien à voir avec elle. Les précisions à Moscou de notre correspondant Claude Brouillot.
Comme toujours en pareille circonstance, la ligne de défense officielle ici fait la part belle aux dénégations. Durant le week-end, la première réaction est venue du Conseil de la Fédération, la chambre haute du Parlement russe, en la personne d'Oleg Morozov, un des sénateurs membres du Comité des Affaires étrangères, pour qui, je cite, « il est impossible de lier la Russie à cette sombre affaire en se basant sur une vidéo qui ramène l'histoire au scénario d'un film à suspense ». Fin de citation. Mais comme si cela faisait un peu court, aujourd'hui, c'est le fameux oligarque russe qui sort de sa réserve, un dénommé Igor Makarov, fondateur d'une compagnie de gaz revendue au consortium Rosneft. L'intéressé fait savoir aux médias russes que tout le monde sait bien qu'il est fils unique et que par conséquent il ne peut avoir de nièce, affirmant que la dénommée Alena Makarova, en action à Ibiza avec Strache, n'a aucun lien de parenté avec lui. Et pour faire bonne mesure, Igor Makarov assure qu'il mettra tout en œuvre pour découvrir qui se cache derrière cette affaire. Plus généralement, les liens entre la Russie et l'Autriche sont régulièrement commentés ici, qu'il s'agisse des valses de Vladimir Poutine au mariage de Karin Kneissl, la ministre autrichienne des Affaires étrangères, ou de l'absence d'expulsion, par exemple, de diplomates russes d'Autriche, au plus fort de l'affaire Skripal. Seul un scandale d'espionnage à Vienne au profit de la Russie l'an dernier était venu jusque-là jeter une ombre au tableau, avant donc que n'éclate l'affaire Strache.
En Ukraine, la fiction est devenue définitivement réalité. Ce matin, celui qui jusqu'à présent n'était que président à l'écran, l'ancien comédien Volodymyr Zelensky, a été investi chef de l'État, ouvrant ainsi une nouvelle ère d'incertitude pour ce pays éprouvé par une guerre et des difficultés économiques. Devenu en 2014 l'un des premiers représentants de la vague de dirigeants populistes arrivés au pouvoir à travers le monde ces dernières années, le chef de gouvernement indien Narendra Modi décrochera-t-il un deuxième mandat de 5 ans? Ou dit autrement, la société indienne polarisée comme rarement reconduira-t-elle à sa tête les nationalistes hindous ou bien retournera-t-elle à l'historique parti du Congrès? Hier, à l'issue d'une campagne acrimonieuse, l'Inde a conclu son vote marathon de 6 semaines pour les législatives. Le verdict des urnes est attendu jeudi. Enfin, preuve que parfois les instituts de sondage peuvent se tromper, en Australie, la coalition conservatrice du Premier ministre Scott Morrison a créé la surprise ce week-end en remportant une victoire miracle aux législatives, obligeant le leader travailliste longtemps donné favori à reconnaître sa cinglante défaite. Le parquet suédois a déposé ce matin une demande de placement en détention de Julian Assange, déjà emprisonné en Grande-Bretagne, et ce en vue de l'émission d'un mandat d'arrêt européen. Le fondateur de Wikileaks est poursuivi pour un viol présumé commis en Suède en 2010, sauf qu'il est également sous le coup d'une demande d'extradition des États-Unis pour la publication par son site de nombreux documents confidentiels, ou quand la réouverture de l'enquête suédoise relance un feuilleton judiciaire vieux de 10 ans durant lequel Julian Assange et ses soutiens n'auront eu de cesse de dénoncer une manœuvre destinée à le faire extrader pour répondre des fuites de documents secrets américains. Félix Dorfin, interpellé fin septembre à l'aéroport de Lombok, a été condamné ce matin à la peine de mort pour trafic de drogue par un tribunal indonésien. Nathanaël Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
Alors, au moment de son interpellation, le Français était en possession de quelques 3 kilos d'ecstasy, d'amphétamine et de kétamine dissimulés dans une valise à double fond. En janvier dernier, il avait réussi à s'échapper de prison avant d'être finalement rattrapé après une cavale de 11 jours. Et ce matin, donc, Nathanaël, les juges sont allés bien au-delà des réquisitions du procureur.
Oui, il y a indéniablement un affichage politique dans cette condamnation à mort. L'Indonésie, vous le savez, a fait de la lutte contre la drogue l'une de ses priorités. Et ce n'est pas la première fois qu'elle condamne à la peine capitale un homme pour ce genre de trafic. Un autre Français, Serge Atlaoui, attend lui aussi dans le couloir de la mort. Mais son cas n'est pas aussi net. Atlaoui a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. Dans le cas de Félix Dorfin, les faits sont plus évidents. Il a été arrêté à l'aéroport de Lombok, une île touristique proche de Bali. Il est arrivé de Singapour avec des valises pleines de drogue. Pour les juges, il ne fait aucun doute que le Français faisait partie d'un réseau, vu la quantité de produits transportés. Aux circonstances aggravantes, son évasion en janvier de la prison dans laquelle il patientait en attendant son procès, il aurait soudoyé une policière avant de s'enfuir pour une cavale de 11 jours dans la forêt, retrouvée début février. Il aurait tenté, lors de son arrestation, de corrompre les policiers qui venaient de le retrouver. Une attitude qui a sûrement joué un rôle déterminant dans la sévérité de la cour indonésienne. Il faut savoir que l'Indonésie, pays musulman, le plus peuplé du monde, condamne souvent à mort pour les affaires de stupéfiants, mais la peine capitale n'est pas cependant appliquée depuis 2016. En revanche, des peines de prison à perpétuité sont courantes. 2 autres Français en font les frais. Gérard De Betz, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2011, il avait été arrêté en possession de plus de 5 kilos d'amphétamine. Et puis Michel Blanc, arrêté à Bali en 99 avec de la drogue, lui aussi a réussi toutefois à rentrer en France en juillet 2018, après 19 ans en prison en Indonésie.
Merci Nathanaël Charbonnier. L'invité de la rédaction aujourd'hui, Dominique Régnier, professeur des universités à Sciences Po et directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Première question monsieur Régnier, s'agissant de cette dernière semaine de campagne pour les européennes, l'agenda médiatique est plutôt chargé. Ce soir, 2 débats sur LCI, le premier de 18h à 20h entre ceux qu'on appelle souvent les petits candidats, puis à 20h45 avec les poids lourds. Mercredi soir, rebelote sur France 2 et France Inter, mais avec un schéma inversé, cette fois les gros candidats pour commencer à 21h, puis les autres à partir de 22h30, et enfin ultime débat télé, ce sera jeudi soir sur BFM, avec 11 têtes de liste réunies ensemble sur le plateau. Cette organisation, monsieur Régnier, est-elle propice, selon vous, à l'exercice démocratique ?
Non, hélas non. Cette campagne, en quelque sorte, n'aura pas eu lieu C'est pas absolument nouveau. Ceux qui ont vécu plusieurs élections européennes le savent. Mais cette fois-ci, il y a eu un tour plus supplémentaire, puisque la crise des Gilets jaunes a empêché, à sa manière, en focalisant l'attention publique par son caractère spectaculaire, d'avoir la moindre chance de suivre une vraie campagne européenne. Le nombre des listes, comme la manière dont les têtes de liste discutent de leurs intentions ou de leur programme, entre guillemets, plus l'organisation médiatique. Alors c'est très compliqué, vous le savez ça mieux que moi, parce que voilà, les contraintes qui entourent la présentation des listes dans le monde médiatique sont extrêmement sévères et difficiles à mettre en place. Donc ça ne permet pas du tout la campagne. Je crois que la raison principale, pour moi, elle est quand même que les têtes de liste portent un discours qui n'a pas beaucoup de rapport avec ce qui les attend au Parlement européen, se donnent des pouvoirs qu'ils n'auront pas, et ne facilitent pas la compréhension de la part d'un public qui ne se fait pas d'illusions, qui sent bien que ça ne colle pas avec la réalité, qu'on ne lui dit pas exactement ce dont on est capable, et qui du coup, par ce décalage-là, va aussi largement s'abstenir.
Question de Sophie Delpont.
Dominique Crénier, vous parliez à l'instant des candidats à tête de liste. Plusieurs d'entre eux ont une inexpérience politique. C'était aussi votre cas dans votre courte carrière politique entre 2015 et 2016, en tant que président du groupe LR de la région, donc Midi-Pyrénées notamment, sur votre court mandat. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus difficile quand on essaie d'être tête de liste? Comment endosser l'habit politique?
Alors, moi, c'était très particulier. J'aurais pas le temps, je le regrette d'ailleurs, d'en dire beaucoup parce que on n'est pas l'objet, mais je réponds avec intérêt. Moi, j'avais pas de carte politique. Je me suis présenté à une primaire que j'ai gagnée. Ça n'a pas plu tout de suite, ça a déplu beaucoup. Ce qui fait que j'ai eu aucun financement d'aucun parti. J'ai donc moi-même emprunté. J'avais 745 000 euros de dette. J'ai hypothéqué ma maison. Je m'y attendais pas pour pouvoir financer ma campagne. Et ça a été extrêmement rude. Et là, on voit que non seulement vous avez la question de l'expérience, je n'en avais pas, mais aussi celle du réseau politique, au sens non pas du tout le réseau qui fait parfois fantasmer, mais les relations, etc. J'avais pas du tout ça, et donc c'est vraiment une machine à vous broyer. C'est extrêmement dur, et surtout que vous risquez, j'étais le seul dans cette situation en France, vous risquez, si vos comptes ne sont pas validés, d'être tout bonnement ruiné, puisque ne vous appartiennent ensuite que les dettes. Donc on voit bien que cet univers n'est pas fait du tout pour accueillir des nouveaux, des entrants, quel que soit leur profil. Et donc, ceux qui aujourd'hui y vont avec peut-être un environnement moins hostile, vont quand même avoir des difficultés à se retrouver dans les codes très particuliers de cet univers qui est non seulement la politique, mais le fonctionnement du parti politique à l'intérieur de la politique.
On peut être donc candidat tête de liste et avoir un parti contre soi, finalement.
Absolument. D'ailleurs, moi, mon élection a été invalidée par un sénateur du parti qui m'avait investi.
Et actuellement, on pense aussi à d'autres candidats tête de liste actuellement, qui ont des difficultés aussi avec, on appelle ça les éléphants au Parti Socialiste, dans d'autres listes aussi également, difficultés à s'imposer et à être soutenus finalement.
Les partis politiques français, on peut le dire en quelques mots, les grands partis français n'ont pas voulu s'ouvrir à la diversité, à la rénovation, au renouvellement, ils n'ont pas voulu. Ils en meurent en fait. Mais plutôt que de se dire, il faut maintenant le faire en catastrophe, on ne l'a pas fait assez tôt, ils se rétractent encore plus pour partager les derniers restes entre les derniers qui restent, si vous voulez. Et du coup, voilà, ça donne des parties où les derniers éléphants, dans leur cimetière, vont essayer de piétiner les pauvres petits qui essayent de faire leur
d'exister.
Trou. Et qui feraient aussi exister aussi bien l'organisation si elle avait été plus ouverte. Donc c'est la fin d'un cycle.
Au niveau de la campagne, le duel annoncé Rassemblement National et La République En Marche, pour vous, est-ce que c'est une manière de tuer le débat politique?
C'est à l'image de ce que nous sommes devenus dans notre démocratie, mais aussi par la faute de ces partis qui pleurent aujourd'hui, ce qui leur a échappé, mais qui ont fait tout pour que les électeurs s'éloignent d'eux. Donc on a effectivement une aberration politique avec une polarisation, comme on le voit maintenant partout dans l'espace public, les réseaux sociaux, les médias, etc. Une polarisation un peu ridicule parce qu'elle ne correspond pas à la réalité de notre société qui est complexe et subtile. On a La République En Marche d'un côté, on a le Rassemblement National de l'autre, et cette espèce de scène à deux qui écrase complètement les autres candidats, mais qui eux-mêmes n'arrivent pas à exister parce que leur propre discours n'est pas substantiel, voilà, donne une campagne qui là aussi laisse nos contemporains et nos concitoyens dubitatifs.
Dernière question très rapidement, est-ce que dans ce thème de la campagne présidentielle, le thème du climat, la campagne des européennes, ce thème-là peut-il vraiment exister, avoir un impact sur le vote?
alors qu'on parle déjà d'une abstention record pour ce scrutin.
C'est une très bonne question, parce que moi je crois que l'on exagère l'importance des enjeux environnementaux, non pas en eux-mêmes, mais dans l'esprit des électeurs, et les effets qu'ils auront sur le scrutin pourraient être très modérés pour le 26 mai.
Merci Dominique Régnier, je le rappelle, professeur des universités à Sciences Po, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.
Merci également à Sophie Delpont. On termine avec un mot de météo, un ciel généralement instable, les averses évoluant parfois jusqu'à l'orage, notamment des frontières allemandes à l'est de PACA et de la Basse-Normandie au Pays de la Loire. Quelques éclaircies pourraient percer sur la moitié ouest du pays. Quant aux températures, elles seront comprises entre 17 et 23 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.